VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Cher Robin Dorcy, les Camille Gros-Didier, bonsoir et bienvenue à l'édition de ce lundi 13 juillet. À la une ce soir, Camille.
Crise au Burundi, à une semaine de la présidentielle, le président ougandais se rend ce mardi à Bujumbura pour une mission de médiation.
Il vient au terme de trois sommets auxquels il a participé et jamais la question cruciale n'a été abordée.
Nous aurons les impressions d'un journaliste sur place à Bujumbura.
Burkina politique, la Cour de justice de la CEDEAO rejette le code électoral adopté à Ouagadougou.
Ouverture ce lundi du dialogue national au Congo-Brazzaville.
La Grèce ne quittera pas la zone euro, mais quelles sont les implications de l'accord signé aujourd'hui entre Athènes et ses bailleurs de fonds ?
À suivre, les derniers développements et une analyse. Nous parlerons aussi des négociations sur le nucléaire iranien qui devrait produire un accord ce lundi, toutefois on l'espère.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal.
La justice ouest-africaine a invalidé ce lundi le nouveau code électoral du Burkina Faso qui interdit aux fidèles de l'ex-président Blaise Compaoré de concourir à la présidentielle d'octobre. Les députés du Conseil national de transition avaient voté cette révision en avril. La Cour de justice de la CEDEAO a estimé ce lundi que la modification du code électoral constitue une violation du droit de libre participation aux élections. Sept partis politiques burkinabés avaient attaqué le nouveau code électoral en juin devant la Cour de justice de la CEDEAO, considérant qu'il violait leurs droits. En tant que membre de la CEDEAO, le Burkina Faso est tenu de se plier aux décisions de la justice régionale.
Le président ougandais entreprend cette semaine une visite de médiation au Burundi où la présidentielle a été reportée au 21 juillet. Le président burundais Pierre Nkurunziza ayant refusé de rester hors de la course, le scrutin sera probablement boycotté par l'opposition. Le climat sécuritaire reste tendu depuis l'annonce d'une possible mobilisation de troupes rebelles contre le gouvernement de Bujumbura. Un contexte difficile donc pour le président ougandais qui est attendu ce mardi au Burundi, comme nous l'explique le journaliste Vincent Keshimana.
J'ose pas dire que tout le monde a peur, mais quand même, on voit que tout le monde nourrit des interrogations. Déjà hier, quand dans l'après-midi, il a suffi de quelques SMS pour dire rentrer tôt, que tout qu'on a vu tout le monde, les guerres sont dans la ville. Et puis, il y a cette intrusion du nord du Burundi, là où on dit qu'il y aurait des éléments qui ont été arrêtés. Et puis, ce matin, on rapporte des armes qui ont été récupérées de la population et en quantité pas tout à fait anodine. C'est une bonne trentaine. Donc, c'est très inquiétant.
Et c'est dans ce contexte que le président Yoweri Museveni entreprend une visite de médiation ce mardi à Bujumbura.
Lui-même, je ne crois pas qu'il ait une assez large marge de manœuvre. Et donc, tout le monde se questionne sur ça. Et puis, il vient au terme de trois sommets auxquels il a participé et jamais la question cruciale n'a été abordée. Et ça aussi, c'est un point important sur lequel tout le monde l'attend. Donc, on s'interroge ici, ensuite on attend, on verra ce qu'il va dire.
C'était Vincent Keshimana, ancien président de l'Association burundaise des radiodiffuseurs. Le dialogue national initié par le président congolais Denis Sassou Nguesso s'est ouvert à Sibiti, au sud-ouest de Brazzaville. L'opposition boude ses assises qui vont durer 5 jours. Idriss Fall.
Les débats porteront sur l'avenir des institutions et de l'organisation des élections, notamment la présidentielle de 2016. L'opposition, regroupée au sein du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel, a annoncé qu'elle ne sera pas présente à cette rencontre, soupçonnant le président Denis Sassou Nguesso de stratagème pour rester au pouvoir à la fin de son mandat. Les participants sont venus pour l'essentiel des partis de la majorité et de la société civile. Après 5 jours de discussion, ils feront des recommandations alors que celles des concertations de EO en 2011 et de Dolizy en 2013 attendent toujours d'être appliquées. Un dirigeant de la majorité assure que Sibiti sera une étape pas comme les autres, mais au sein du Parti congolais du travail, André Okombi-Salissa, qui fut ministre sans interruption de 1997 à 2012, a qualifié ce dialogue de monologue et de divertissement. Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT, répond que c'est un camarade égaré. beaucoup de Congolais se montrent dubitatifs et n'attendent pas grand-chose de cette messe où tout semble déjà établi.
Human Rights Watch appelle la MONUSCO et le gouvernement de la République démocratique du Congo à arrêter Sylvestre Mudakumura, le chef des FDLR, rébellion à dominante rwandaise. Mudakumura est sous le coup d'un mandat de la Cour pénale internationale depuis 3 ans. Eddy Isango a joint Anneke van Woudenbergla, chercheuse principale à la division Afrique de Human Rights Watch.
Son groupe continue à commettre des violations de droits de l'homme. Et juste dernièrement, il y a quelques mois, il y avait un directeur d'une école et son fils qui, selon les FDLR, ont donné des informations à des autorités de où se trouve un groupe des FDLR. Et les FDLR avaient exécuté ce directeur de l'école et son fils. Ils ont décapité leurs têtes. Ils ont mis les têtes sur des bâtons en vue de tout le monde. Donc c'est ce type d'atrocité qui continue. Le moment est venu que cet monsieur est arrêté. Je suis sûre que le gouvernement congolais et les casques bleus de la MONUSCO ont la capacité d'arrêter Sylvestre Mudakumura. Les choses qui manquent, c'est une stratégie pour identifier où il se trouve et une stratégie pour l'arrêter. 3 ans après que ce mandat d'arrêt était lancé par le Cour pénale internationale, nous tous, nous attendons son arrestation.
Anneke van Woudenbergla, chercheuse principale à Human Rights Watch pour l'Afrique.
Au moins 4 soldats tués dans une attaque des Shebab dans le centre de la Somalie, selon Reuters, qui cite des responsables somaliens ainsi que la milice djihadiste. Les Shebab ont attaqué une base de l'armée.
Selon Reuters, qui cite des responsables somaliens ainsi que la milice djihadiste, des Shebab ont attaqué lundi une base de l'armée dans le centre de la Somalie. Le capitaine Nour Olo, un officier de l'armée basé à Ragesele, dans le centre de la Somalie, a déclaré que 2 insurgés avaient été tués dans l'attaque, portant le bilan préliminaire à 6 morts. Les Shebab ont été repoussés, a-t-il dit à Reuters. Le cheikh Abdiassis Abou Moussa, porte-parole des opérations militaires des Shebab, a lui déclaré que 12 soldats ont été tués dans l'opération et que les miliciens ont pu saisir des armes et des munitions. Il est fréquent que les Shebab alourdissent le bilan de leurs opérations et que le gouvernement somalien, par contre, cherche à minimiser l'impact des raids de la milice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a révoqué 4 hauts responsables militaires, annonce l'agence Reuters. Il s'agit des ministres, plutôt des responsables de la défense, de la marine, de l'aviation et de l'armée. Une décision anticipée puisqu'il a donné priorité à la lutte contre la milice djihadiste Boko Haram. L'identité des remplaçants sera bientôt annoncée, a fait savoir le porte-parole de la présidence nigériane.
Au moins 12 civils et un soldat tchadien ont été tués dimanche soir dans un double attentat suicide à Fotokol dans le nord du Cameroun, région frontalière au Nigeria, rapporte Reuters qui cite un officiel camerounais. Selon le journal L'Œil du Sahel, les 2 kamikazes portaient des burkas.
Athènes et ses partenaires européens se sont entendus sur un 3e plan de sauvetage après de longues négociations à Bruxelles sur la crise grecque. Michel Joseph.
Le plan a été adopté à l'unanimité après 17 heures de discussions ininterrompues, a déclaré ce lundi le président du Conseil européen Donald Tusk. La Grèce s'est engagée à procéder à des réformes très difficiles en échange d'un prêt d'environ 100 milliards de dollars pour renflouer son économie. Le premier ministre grec Alexis Tsipras doit maintenant convaincre le Parlement grec d'approuver le plan d'ici à mercredi, y compris les réformes de la fiscalité et des régimes de retraite. Une fois le plan approuvé par le Parlement, M. Tsipras doit convaincre ses 18 partenaires européens de débloquer des fonds d'urgence pour éviter une faillite de l'État. M. Tusk a déclaré que le nouvel accord a des conditions strictes, mais qu'il amène la Grèce sur la bonne voie avec ses parlementaires européens, tout en rétablissant la confiance. La chancelière allemande Angela Merkel a reconnu que des conditions difficiles ont été mises en place, mais que les avantages de l'accord l'emportent largement sur les inconvénients. Le renforcement des capacités pour le gouvernement grec était nécessaire, ajoutant qu'il était important de le renforcer à travers la modernisation de son administration.
Le président iranien Hassan Rouhani doit s'exprimer ce soir à la télévision d'État pour évoquer les négociations nucléaires en cours à Vienne. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un responsable des médias. Cette intervention télévisée surviendrait quelques heures avant l'expiration d'un nouveau délai dans les discussions entre l'Iran et les grandes puissances pour tenter de sceller un accord historique sur le programme nucléaire iranien.
Le gouvernement irakien a annoncé aujourd'hui le début d'une offensive pour la reconquête de la province d'Al-Anbar dans l'ouest de l'Irak, contrôlée depuis des mois par le groupe État islamique. L'opération inclut des soldats de l'armée, de même que des combattants chiites et sunnites. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Got it, how covered, and we'll Olingan Kuba, etonye tiro kumabati.